podcast.com. Essaye ça.
Hey, salut tout le monde. C'est Tommy Godette de Terrain Basique, content de vous retrouver pour une deuxième semaine d'affilée au micro. On est accompagné ici d'un sacré paquet de poilus. Andy qui vient de nous rejoindre.
Allô.
Salut Andy.
Comment ça va?
Ben, ça va super bien. Toi, t'es-tu off the wagon? C'est pas mal ça la discussion.
Off the wagon?
Ouais.
T'as-tu désinstallé Arena?
Ah non. Ben, je joue pas à Arena, fait que ça règle le problème. Voilà. Okay, il se passe rien à Arena.
Il est juste ton téléphone, puis peut-être qu'il tente.
Ah, il est jamais... je m'en sers sur l'ordinateur.
Ah, voilà.
C'est un jeu que je me sers... j'aime les jeux par tour quand je mange. C'est niaiseux en regardant quelque chose.
Mais t'as-tu une petite démangeaison des fois?
Non. Non, c'est fou à quel point que ça me manque pas. Mais
et voilà, il a fait la paix. Et ouais. Ben, sinon, il y a Emmanuel qui est là aussi.
Je suis là et je joue à Arena.
Magic. Veux-tu rajouter autre chose ou je pense...
Je rajoute rien.
Parfait. Salut Jonathan aussi, notre spécialiste en Muse. C'est quoi qu'on écoute cette semaine?
Hey, je vous ai trouvé du Chillwave cette semaine, attendez un instant. Le nom du band, c'est The World We Live In. L'album qu'on écoute, c'est Star Broken Souls. J'aime ça. Je trouvais que ça continuait bien avec ce qu'on écoutait la semaine passée. Encore un peu de Chillwave.
Allez checker ça, c'est chill. Parfait, ça. Et l'on prie, mesdames et messieurs.
Hey, salut les magiciens et les magiciennes!
Et voilà, merci beaucoup d'être là, mon cher. Ben, on rejoint notre Sphinx aussi, qui est encore responsable de notre programmation, pas mal à 100%. Jason Keys, qui nous a entretenu de Odyssey la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, mon cher?
Ben, on continue, hein? La semaine passée, on a parlé de Odyssey, la cette sortie en octobre 2001. Basé sur les graveyards, on avait vu le blanc et le rouge. Aujourd'hui, on va voir le vert, le bleu et le noir, et surtout beaucoup le storyline qui est autour de ce set-là. Je fais un petit rappel que Odyssey, il était un peu tanné de tout ce qui était les Phyrexiens, le Weatherlight, Urza. Fait qu'ils avaient tous décidé là, de, on s'occupe pas de ça, on repart une nouvelle histoire, même si c'est sur Dominaria encore. On est deux siècles après l'apocalypse. Donc, un genre de monde semi-post-apocalypse, basé surtout sur l'affrontement entre les couleurs. Et Odyssey est un set où chacune des cartes a rapport avec le graveyard. Donc, on se lance. Tommy, si tu peux nous avancer de deux slides, s'il te plaît. On va aller dans la forêt de Kroza. La forêt de Kroza, c'est dans le fond, elle est au nord-ouest du continent. La forêt de Kroza, c'est vraiment simple, hein? C'est probablement, si vous cherchez Tommy dans une forêt, dans le multivers de Magic, c'est probablement la seule forêt où il peut aller, c'est la forêt de Kroza.
Parce qu'il n'y a pas d'elfes.
Il n'y a pas d'elfes. Comme j'ai dit, ils ont reset tout. Il n'y a pas de gobelins à Odyssey, il n'y a pas de merfolk, il n'y a pas d'elfes. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette forêt-là d'abord, si tu me passes à la suivante? Dans la forêt de Kroza, il y avait, je m'en avais parlé la semaine passée, il y avait des écureuils, mais les créatures de la forêt de Kroza, qui sont dans le fond les gardiens de la forêt, qui prennent un peu la place des elfes, c'est les centaures.
Mais voilà.
Les centaures qui ont des gros sabots.
Oh. Ah, il est beau ce logo-là.
Donc c'est tout là, c'est pas mal toutes les mécaniques des créatures vertes qu'on avait, hein, comme le Krozen Archer, hein, on voit Krozen dans le nom, c'est la forêt de Kroza, qui il a reach, hein, il peut bloquer les créatures qui ont flying, et comme j'ai dit, c'est un set de graveyard, tu veux mettre des cartes dans ton graveyard, tu payes un vert, tu discartes une carte, et lui il gagne +0/+2 until end of turn. Fait que c'est un peu la même gimmick, là, le Crashing Centaur, que c'est un 3-4 pour 6, et il y a Threshold qui lui donne +2/+2, et Shroud. Là, tu ris, Eman, des casting costs de Boomer.
3-4 pour 6.
Des casting costs de Boomer. Ouais, mais si t'as 7-4 dans ton graveyard,
wow.
C'est une 5-6.
Pour 6.
Pour 6.
Wow.
Ouais, ça l'a un peu mal vu.
Qu'il faut que tu payes pour lui donner Trample.
Mon frère, il m'a dit quoi hier? Il a dit, hey, je voulais me construire un deck de Commander, mais j'ai utilisé mes vieilles cartes, puis ça marche plus. Là. Il y a des cartes d'aujourd'hui, elles sont trop powerful. Et ben, of course, garde ça.
Ça dépend. Ça revient à ce que tu disais la semaine passée. Les créatures sont rendues vraiment meilleures, mais les spells, les instant sorceries,
sont fous.
Celles qu'il y avait avant, il n'y a plus de...
Ça s'est inversé. On passe à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, les centaures de la forêt de Krozan, et je sais pas pourquoi ils ont pas mis des elfes. T'sais, ils auraient pu nous faire plaisir et dire qu'ils étaient des elfes. Tu sais, de mettre des créatures humanoïdes là, dans la forêt. ils ont décidé que c'était pas des elfes. Fait que t'as comme un paquet de druides, c'est le creature type druide, mais c'est clairement des humains.
Ouais.
Il y a aucun, comme j'ai dit, il y a aucun elfe dans la forêt de Crozat.
Mais ça leur met des oreilles, c'est des elfes.
Des oreilles pointues.
Là, ils en ont pas.
Ils en ont pas. Fait que c'est toutes les, c'est les fameux druides. Fait que les druides et les centaures, des fois les centaures ont aussi, ils ont druides dans le nom. Ouais. Fait que tu sais, druide, l'iris, tu sacrifies. Fait que là encore là, tu veux mettre des créatures dans ton graveyard. Fait que en le sacrifiant, tu détruis un enchantement. Crozen Avenger, hein, Trample 3-1 pour 3 Threshold, tu peux y donner Regenerate, c'est vraiment pas bon, mais bon, c'est... écoute, j'avais besoin d'exemple. fait que c'est ça, fait que la forêt de Crozen, c'est des druides et des centaures. On passe à la suivante.
Je veux juste raconter une histoire de druide, parce que moi aussi, je suis un druide, puis on est allé à un salon de la sauce à Magog dernièrement, puis j'étais habillé en druide. Là, j'ai jasé avec du monde, puis là, il y a une madame qui a dit « Ah, moi aussi, je suis druide. » Là, j'ai demandé à la madame « Ah ouais, t'as appris où? Comment être druide? » Puis elle m'a dit « Ah, moi, j'ai tout appris sur Internet. » Là, j'y ai dit « Ah, cool, moi, j'ai tout appris dans Donjons et Dragons. » Puis là, on a continué à jaser druide, mais tu voyais qu'elle... Puis je considère pas mes études en druidisme moins bonnes que les siennes. Ah,
c'est sont différentes. Vous avez
à juger mon druidisme.
Ah ouais,
elle ose ça.
Non, mais là, le pire, c'est que tu sais, toi, ton druidisme, il est meilleur parce que de ce que je sais, tes livres, ils venaient de papier puis d'arbre. C'est vraiment plus proche.
Probablement, effectivement.
Ouais, elle, c'est tout digital.
C'est mondialiste.
Il est plus random, son druidisme. Salut, parce qu'il faut qu'il lance des dés à chaque fois.
Effectivement, aussi. C'est histoire de druide. Voilà, on avance.
T'avais dans Fallen Empire, sorti en 94,
bien, monsieur.
Ils avaient mis des hommes mentes religieuses. Il n'y avait pas de nom, c'était juste comme Telonite Monk,
cleric.
Qui était un cleric. Mais c'était clairement, tu vois, on voit le dessin, hein, c'est une mante religieuse humanoïde. Fait que là, ils se sont dit, on n'a pas d'elfes, fait que ça nous prend des créatures pour peupler notre forêt. Fait que là, on va fouiller dans les vieilles histoires de Magic. Et si tu passes à la slide suivante, c'est là que dans Odyssey les Nantuko. Les Nantuko, c'est des hommes, des êtres mantes religieux, c'est des insectes druides, hein? On voit dans Creature
Time. T'avais pas mentionné la semaine passée qu'il y avait une gang d'artistes de Dark Sun qui s'était ramassée à travers sur
Vrai, ça fait
j'avoue que ça
pourrait être un lien. Ça pourrait être un lien que le Trick Queen de Dark Sun a été amené dans Magic, c'est fort possible. J'ai pas trouvé la preuve, mais je vais être devant nous, là. Tu vois, le Nantuko Disciple, hein? Ce qu'ils ont de particulier, les Nantuko, c'est qu'ils se tapent pour faire des affaires. Fait que, tu sais, le Nantuko Disciple, il donne +2/+2 à une créature. Le Elder, il fait 2 laines dans ton mana pool si tu le tapes.
C'est pas mauvais.
Puis le Mentor, tu le tapes pour 3, il donne +X/+X à une créature, X étant le power de la créature. Ooh. Fait que, c'est, dans le fond, c'est des genres de druides qui aident les autres. Ils sont comme full altruistes. Et dans le fond, c'est que dans l'histoire de la forêt de Crozat, il y a les trois. Il y a les druides humains, il y a les druides centaures, puis il y a les druides insectes. Puis ils sont en espèce de pas de chicane, là, mais comme de rivalité. De qui
comme mon histoire de druide de tantôt.
C'est
hein?
Qui est le meilleur druide de toute
la gang. C'est qui le meilleur druide. Mais les trois, ils ont l'ambition, c'est qu'il faut protéger la forêt de Crozat contre les déprédations de nos deux ennemis qui sont... C'est qui les ennemis du vert? C'est le noir,
noir
et le bleu.
Puis le rouge.
C'est la cabale et les... j'ai un blanc de mémoire sur le creature type.
Les céphalides.
Les céphalides, merci. On passe à la suivante, Tommy.
On ne l'avait pas vu encore. Comment tu le sais, François? Ah.
Parce que je connais
cette son nom.
Ah oui, je veux juste finir une parenthèse. Squirrel Nest, c'est dans Odyssey. C'est un Ancient Land que tu peux taper le land pour avoir un écureuil, un token. Hein?
Ouais.
Ça dit dans le flavor text, dans la forêt de Crozat, il faut que tu te watches tout le temps
à propos du squirrel. Il faut que tu gardes un œil sur les écureuils. Ouais. C'est important de le dire comme faut parce que sur le artwork, l'écureuil,
il y a un œil arraché.
Je veux juste dire, ça, c'est une partie du combo pour faire des écureuils.
Oui, je vais en parler dans 5 secondes. Je veux juste finir le artwork. C'est parce que, comme je vous ai dit, c'est Mark Rosewater la semaine passée. C'est lui qui pousse les écureuils à Magic. Et j'ai trouvé un podcast où quelqu'un lui posait la question « Pourquoi les écureuils dans Magic? C'est ridicule. » Puis Mark Rosewater, il a dit « Justement. » Puis il dit « Moi, là, ce que j'ai tout le temps trouvé de plus drôle dans mes films que je consomme, c'est quand une créature cute fait des affaires gore. » Puis en mettant des écureuils dans Magic qui sont cute, Puis là, tu les combos dans du rouge ou dans du noir. Tu peux faire en sorte que tes écureuils fassent des affaires gore. Puis je trouve ça super drôle.
C'est pas des écureuils, mais un film de série B que j'aime bien écouter, c'est Night of the Leopoid.
Oui.
C'est des lapins, c'est pas des écureuils. Ouais. Mais les effets visuels sont tellement inverses de magnifiques. Et.
Il y a eu bien des toutous qui ont été pitchés.
Ouais, ouais, c'est le skill.
Ça n'a pas rapport des écureuils. Tu sais, t'as des humains 1-1, puis t'as des écureuils 1-1.
Oui, des soldats Boros, élite 1-1.
Non, mais regarde, il y a un œil, c'est pas pour rien.
C'est des écureuils de la forêt de Crozat. Si tu nous passes à la fête suivante, Tommy. Parce que non seulement c'est un écureuil, mais t'avais des combos vraiment abus. Ça, c'est un des gros decks de l'époque, le deck d'Earthcraft. Earthcraft, ça faisait en sorte que tu pouvais. Taper une créature qui n'est pas tapée pour untaper un land.
Ben
fait que là, tu mettais ton Squirrelless sur un land. Puis avec Intruder Alarm, que chaque fois qu'une créature rentre en jeu, par exemple ton écureuil 1-1, ça permet d'untaper une créature. Dans le fond, untaper un land. Fait que ces trois cartes-là, Earthcraft, Squirrelness puis Intruder Alarm, tu peux faire infini écureuil.
Quand est-ce que t'arrêtes?
Ben, infini.
Tu l'autres avec des écureuils. Fait que là, tu peux faire
t'arrêtes quand
20 écureuils puis tu le tues. C'est très drôle. On passe à la suivante. On va aller maintenant, on va aller se promener dans les ennemis de la forêt de Crozat. Hein. C'est les ennemis de la forêt de Crozat. On va se déplacer dans le Mare Empire. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est dans le fond l'océan au large de Otaria. Ça s'appelle le Mare, M-E-R. Je ne sais pas si c'est un genre de jeu de mots avec la mer au lieu de l'appeler Sea. Je ne sais pas. Merfolk. Mais c'est vraiment, vous allez voir sur les cartes, c'est écrit Mare Empire. M-E-R. Il n'y a pas de Merfolk dans Odyssey, je l'avais dit la semaine passée. C'est une renégat qu'elle m'a bien dit. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas de Merfolk dans Odyssey. Fait, qu'est-ce qu'on va mettre à la place? On passe à la slide suivante. C'est l'apparition... Ah oui, excuse. Les Merfolk avaient tout le temps eu une grande place dans Dominaria. Ça, c'est dans Invasion. Il y a plein de Merfolk. Mm-hmm. Notamment l'Imperius Galena et éventuellement pendant l'invasion phyrexienne, ils transforment les Vaudaliens en zombies. Fait que ce qu'ils ont dit dans Storyline, c'est que les Merfolk ont été beaucoup atteints dans la guerre contre les Phyrexiens. Et ce qui passe à la suivante, Tommy.
Fait qu'ils sont allés se cacher.
Ben non, mais c'est qu'ils ont, ils ont payé un gros prix, là. Ils ont été réduits. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les céphalides ont remplacé... Puis ça, c'est vraiment, c'est canon. C'est dans le canon. Les céphalides ont remplacé les œufs de Merfolk par des œufs de céphalides dans les nids de l'Empire Vaudalien. Et en deux siècles, parce qu'on est deux siècles plus tard, les Merfolk sont wipés et ce sont les céphalides qui règnent dans le fond des océans. Mark Rosewater, il a dit que vu qu'à cause du combo Winter de 99 et que c'était surtout les decks bleus qui étaient très forts, il a beaucoup insisté que les cartes bleues, ce soit aussi les vilains dans le storyline de Otaria.
C'est parce que là, si tu joues des céphalides, tu joues un peuple génocidaire, là, si j'ai bien compris.
Ben oui, exactement. Et ce qui est le fun, c'est que moi, j'aime beaucoup les céphalides. Là, vous allez voir, son très concept, c'est des hommes pieuvres. Et on voit un peu là, leur food chain, comment il est arrangé. Quand le céphalide scout, là, c'est un 1-1 qui est flying. Tu peux payer 3 pour sacrifier un lemme. Dans le fond, tu grossis ton graveyard pour piger une carte. Lui, c'est qu'il parcourt à la recherche de trésors. Hein. Il parcourt le fond de l'océan, puis il est capable de sortir dehors parce que les céphalides, ils font de la magie. Après ça, t'as le céphalide looter, que tu peux le taper pour qu'un joueur pige une carte, puis discarte une carte. Ça, dans le fond, c'est qu'une fois que le scout il a trouvé le butin, le looter il arrive et il prend le butin. Et le broker, hein, 3 colorless, un bleu, un 2-2, tu le tapes pour qu'un joueur pige 2 cartes, puis discarte 2 cartes, pour grossir le graveyard encore. Ça, c'est un broker, c'est un marchand. Fait que ce que le looter il a ramené, qui a volé dans le fond de l'océan, ben là, il va l'échanger avec les autres civilisations que j'ai parlé tout à l'heure. Puis là, il y a comme un commerce qui se fait. Mais dans le storyline, vous allez voir, les céphalides sont foncièrement des crosseurs. Et
j'aime beaucoup les amazing. Hein? C'est vraiment merveilleux, n'est-il pas, ce que les humains vont garrocher quand ils sont en train de se noyer. C'est excellent.
Puis... il y a comme plusieurs clans et ils se font la guerre entre eux. Et vous allez voir, en 3-7, on va avoir 3 empereurs céphalides différents.
Oh, wow, cool. Okay. Ben oui, ben les pieuvres, ça vieillit. C'est super intelligent, ouais, mais ça vieillit pas
mieux. On passe à la suivante. Le premier boss des céphalides, hein, celui qui a tassé les Merfolk, c'est Abochan, céphalide empereur, hein, pour 6, 1, 3, 3. Tu tapes un céphalide qui n'était pas tapé. pour taper un permanent adverse, et puis tu peux payer 3 pour taper toutes les créatures qui n'ont pas flying. Puis tu vois, dans le flavor text, ça se dit personne peut combattre la marée pour toujours, parce que le plan de Aboshan, c'est de faire monter le niveau de l'eau pour engloutir Otaria, et ainsi devenir le... Parce que j'ai dit, ah, c'est une guerre entre les couleurs. C'est devenir le boss. C'est pourquoi tu
on fait ça comment? On fait ça comme ça? Tout le monde fait ça comme ça, on tourne en rose.
Non, ben non. Tu fais comme on est bien parti pour ça. Là. Oh. Tu fais comme nous autres. Ouais.
Je vais répondre à ta question l'autre bord de la carte de la semaine. Okay. Tu le passes à la suivante, Tommy? Ah oui, c'est dans Odyssey qu'il y a, parce que hein, tu veux grossir ton graveyard. Traumatize, trois colorless, deux bleus. Ouais,
hein? Est-ce que j'ai fait chier du monde avec ça?
Un joueur met la moitié de sa librairie dans le graveyard. Donc là, t'es à la moitié de la job de Milling et Javet. On passe à la suivante.
Ou tu te le fais à toi-même, puis tu ramènes aussi tous tes monstres en jeu. Ça a été déjà vu, ça.
Une carte vraiment conne, mais qui a eu une très grande importance dans le jeu, c'est Stand Still. Qui a aucun rapport avec les céphalides, là, mais c'est juste un enchantement que, à chaque fois qu'un joueur joue un spell, tu sacrifies Stand Still, fait que ça te fait une carte de plus dans Graveyard. Et tu peux piger trois cartes.
Les adversaires de ceux qui ont casté le spell pigent trois cartes.
Ouais, fait que le but, là, le but, ça, c'est les il appelle ça les decks de standstill. C'est encore très joué en pré-moderne en 2023. C'est que tu fais bleu-blanc contrôle, tu joues quatre standstill. J'ai mis à l'écran le Brian Seldon, son deck, il a gagné le championnat pré-moderne au mois de juin l'année passée.
Des Mishra, n'importe quelle land qui tape, là, des lands spéciaux, ça va bien, parce que c'est pas des spells.
Oui, il faut pas que tu joues de spell. T'attends que l'autre casse son premier spell de la game. À un moment donné, il va se tanner, hein, il te regarde, tu continues d'accumuler tes counter spells, tes swords to plowshare et ça. Et éventuellement, quand il joue son premier spell, ben ça te fait piger 3 cartes. C'est exactement ça que tu veux que se passe.
Puis tu contrôles le jeu d'en face de l'autre.
Ouais, si tu mets, vas-y, casse ton spell. Fais-moi piger 3 cartes.
La carte est bien nommée. Hein?
Ouais. Stand Still. On passe à la suivante. On va aller voir maintenant mes préférés.
Oh.
On va aller, dans le fond, tu sais, je vous avais dit...
La cabale!
La semaine passée, les créatures blanches, hein, il y avait les Haven qui étaient dans le ciel et les nomades qui parcouraient les plaines. Mais il y a des villes sur Otaria. Il y a deux villes. Et ces deux villes-là sont contrôlées par la Cabale et sont entourées d'un swamp, hein, parce qu'il fallait qu'ils justifient que c'est des swamps qui cassent les spells noirs. Fait que dans le noir, la gang de la couleur noire, c'est la Cabale. Si tu passes à la slide suivante, Tommy. La Cabale, là, je vais prendre mon temps pour les décrire, sont vraiment, vraiment cool. Ils ont fait un... Parce que Torment, que je vais parler la semaine prochaine, est un set qui avait plus de cartes noires que les autres cartes. La Cabale, c'est vraiment le groupe le plus important des cinq dans le bloc Otaria, et ils ont vraiment travaillé très fort sur la Cabale. Dans le fond, c'est eux, ce qu'ils sont capables de faire, c'est de la magie des cauchemars. Mm-hmm. Ils appellent ça les Dementia Summoners, hein? les invocateurs de démence. Ça a le rapport parce que dans Torment, que je vais parler la semaine prochaine, il y a la mécanique Madness. Qui
discarde des cartes qui ont rapport aux cauchemars.
Et dans le fond, la Cabale n'invoque pas des démons. Ce qu'ils font, c'est que les Dementia Summoners, ils prennent tes cauchemars, ils sortent de ta tête, puis ils les font manifester. Fait que le Dementia Summoner, là, vous remarquerez que toutes les cartes sont habillées à peu près pareil, et il y a beaucoup de détails. Ils ont notamment tout le temps un encensoir. Ça, c'est le truc que tu fais brûler de l'encens, là, qui est tout le temps suspendu à leur ceinture. Apparemment, dans le lore de Odyssey, les encensoirs, ça repousse les cauchemars. Ils ont des foulards qui leur cachent la face et des goggles, des genres de grosses lunettes, parce que si un cauchemar voit ta face, il va se rappeler de toi, puis il va tout le temps te poursuivre. Fait que vu que c'est eux qui les summonent, ils veulent pas que les cauchemars soient capables de les retrouver. Moi, le flaw que je trouve là-dedans, c'est-tu qu'il faut qu'ils changent de linge chaque fois qu'ils summonent?
Ça parce que s'ils mettent tous le même genre de linge, c'est dur.
C'est vrai qu'ils sont habillés tous pareil. Mmh.
Non, c'est la face. C'est pas l'apparence physique, c'est
la face. Le visage. Il se rappelle
c'est
ton visage.
C'est un peu comme au même titre que s'il y a un mauvais esprit ou quoi que ce soit, ou dans la magie, si tu connais le vrai nom d'une personne. Fait que c'est
comme
ça.
Dans la vraie vie.
Ah, écoute, on va aller les voir, les cartes de la Cabale. Hein. Ça, c'est les cartes dans le noir. T'as tout un cycle de cartes.
Gang de bombes avec des tatous.
Let's go, Tommy, parle-nous ça. Tu vois, là, c'était. Il appelle ça. Dans le fond, le creature type, c'était des minions. Parce qu'ils servent tous le même maître, qui est le boss de la Cabale, que je vais parler dans 5 secondes. Fait que t'as plein. Fait que ce qui est le fun des minions, c'est qu'ils font des affaires, puis surtout parce que tu veux grossir ton graveyard, tu peux les sacrifier, puis ça fait d'autres affaires. Tu vois, le Overeager Apprentice, hein, l'apprenti qui a vraiment hâte là, de servir. On voit sa description, le art correspond exactement à ce que je vous parlais tantôt. Tu vois, c'est un 1-2 que tu peux discarter une carte de ta main pour le sacrifier et faire un Dark Ritual. Dans le fond, ça fait 3 mana noirs. Ou le Painbringer, hein, on voit que tu peux le taper pour enlever n'importe quel nombre de cartes de ton graveyard pour faire moins X, moins X sur une créature, le X étant le nombre de cartes que tu as enlevé de ton graveyard. Ou le Sadistic Hypnotist. Lui, tu sacrifies une créature, ton joueur doit discarter 2 cartes de sa main. Cependant, tu peux seulement faire ça comme un sorcery. Fait que vous allez voir, là, la gang, la cabale, sont, à part leur boss, sont toutes habillées comme ça, avec l'espèce d'encensoir. Ils ont tout comme de la fumée autour d'eux autres à cause de l'encensoir. Je trouve ça vraiment cool comme concept de fantasy.
Ouais, c'est vrai, c'est cool.
Ouais, puis ils ont de l'encens dans les cheveux aussi. Là, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a de la fumée qui sort des cheveux.
Ouais, puis.
C'est là que ça vient, les cauchemars.
Ah, ben ouais.
Criss-cross.
On passe à la suivante. On passe à la suivante. Tu vas voir leur boss, c'est des inquisiteurs. Et on voit sur Cabal Inquisitor, on voit un dude de la Cabal qui est en train de fouiller dans la tête d'un Haven, d'un oiseau qui est capturé. Hein. Et tu vois, lui, il y a Threshold. Hein, si tu as 7 cartes dans ton graveyard, tu enlèves 2 cartes de ton graveyard pour faire discarter une carte de ton adversaire. Fait que on change pas la nature du noir, là, c'est que t'enlèves les cartes de la main de l'autre, là, c'est le bon vieux M'Tuturak. Mais c'est, comme j'ai dit, c'est très créature, centré sur les créatures. On passe à la suivante. Fait que ça, c'est la cabale. Leur trip, c'est de trouver des cauchemars, de les invoquer, de les contrôler. Ils sont aussi capables, ils ont un sideline, c'est qu'ils sont capables de lever des zombies.
Cool.
Oh ouais.
Ouais.
Of course.
Why not, hein? Fait que tu sais, on l'avait vu la semaine passée avec les Buried Alive puis Entombed. Ils vont volontairement pogner du monde, ils vont les enterrer vivants, puis là, ils les ramènent en zombies. Fait que t'as plein de cartes, tu sais, le Grave Digger, c'est un reprint, là, tu ramènes une créature dans ta main, Crypt Keeper, tu le sacrifies pour enlever une carte dans le graveyard de l'autre. Fait que tu sais, t'as beaucoup de zombies qui a rapport avec la cabale. Et si on passe à la suivante, leur boss, c'est le Patriarche.
Salut, Patriarche!
Cabale Patriarche. 3 colorless, 3 noirs, écoute, 6, c'est un 5-5. Tu peux payer 3 pour sacrifier une créature, dans le fond, un minion, hein, pour donner -2/-2 à une autre créature until end of turn, ou payer 3 pour enlever une créature de ton graveyard pour faire encore là -2/-2. C'est un genre de lord qui contrôle les trucs.
Hey, check-y la face, comment il a l'air de party!
Il a l'air de party!
Le
patriarche de la cabale, on va voir, au bord de la carte de la semaine, poste.
J'aime sa position qui est non seulement sur un système patriarcal, mais il y a la position « Laisse-moi te mansplainer ce qui se passe ».
Ah oui.
Et j'aime beaucoup son accoutrement style Pape Evil, tu sais, avec l'espèce de longue tiare sur la tête.
Ouais.
On passe à la suivante. Vous allez voir, on va le revoir beaucoup, lui. Il est sur plein de cartes. Il y a plein de cartes. L'artiste est jamais le même, fait que la face change.
Ouais, c'est
mais, mais on le reconnaît avec
sa tiare.
Puis toi, Hunting Echo, 3 colorless, 2 noirs. Enlèves toutes les cartes de ton adversaire, de son graveyard. T'enlèves toutes les cartes sauf les basic lands. Et après ça, tu cherches dans sa librairie pour les cartes qui ont le même nom que ce que t'as enlevé.
Et t'as broyé.
Mettons, tu fais un traumatise.
Ouais, t'enlèves
la moitié. Tu joues un Ting Echoes après. Le gars, il chiale en tabarnak après. Il n'y a plus de cartes.
Fait que ça nous donne un peu une idée. Là, le patriarche, il est très, très, très puissant. On passe à la suivante.
Petite patriarche.
C'était drôle. Le removal. C'était le terror dans Odyssey. C'est le Innocent Blood. Un noir, chaque joueur doit sacrifier une créature.
C'est très bon.
Ça, c'était très bon. Là, parce que toi, tu voulais aussi sacrifier des créatures pour grossir ton graveyard. Et ça target pas. Fait qu'on s'en fout qu'il y a comme le Mongoose qu'on parlait la semaine passée.
Ben, puis aussi le Acroma. Hein.
Oui.
Hey, faire des Innocent Blood pour péter un Acroma qui a été animé dead, là. Been there, Chris.
Been there.
Ça, c'était comme, mettons, la score en power play.
Moi, ce que j'aime aussi, au-delà du fait que ça target pas, puis je préfère faire sacrifier, ça bypass bien les affaires, il y a aussi l'aspect psychologique. Quand tu demandes à un joueur, choisis.
Choisis qui que tu n'as plus le droit d'avoir. Ouais, c'est très bon. Tommy, je vais demander de sauter de 2, s'il te plaît. Excuse l'autre après.
Ah, ça nous amène à la carte de la semaine. Merci beaucoup pour ça, Jason. On vient de finir notre tour des couleurs de Odyssée, hein, si on inclut ce qu'on a vécu la semaine passée. Merci pour ça. On va aller maintenant à la carte de la semaine, présentation de l'adversaire Pub Ludique Sympathique 4303 Sainte-Catherine-Est. Avant d'aller vers là, par contre, on écoute une petite tranche de beat à bon. Hey, c'est toi encore, ça. OK.
C'est ça.
Parce que c'est tout le monde m'a demandé à qui j'ai dit que j'allais faire un truc de Odyssey, là, puis qui joue à Magic dans ce temps-là. Là. C'est comme, ça veut dire que tu vas parler de Psychatog.
Ben oui.
Si tu jouais à Magic en 2001, 2002
moi, je jouais
et 2003,
à Magic. Oui, moi aussi.
T'allais rencontrer inévitablement des decks de Psychatog. Fait que la carte de la semaine, j'ai décidé de le faire en fait sur les Atog. C'est quoi les Atog? D'où c'est ça vient? Puis pourquoi le Psychatog est le plus grand Atog de tous les temps? Vas-y, Tommy.
Atog, c'est GOAT.
Oui, c'est un... comment on appelle ça?
Un acronyme.
Un pantalon.
Palindrome.
Non, même pas. C'est un acrostiche. Oui, c'est
non.
Un anagramme.
Un anagramme!
Hey, on a passé à travers tous les styles.
Atog est sorti dans Antiquity, qui est un set basé sur les artefacts. Et dans le fond, c'était une commune. Et il savait pas comment l'appeler, ce monstre-là. Il voulait un monstre, dans le fond, qui se casse early, qui est juste un 1-2, et que tu peux sacrifier gratuitement un artefact pour lui donner +2/+2. Si tu nous passes à la slide suivante, Tommy, dans le fond, là, dans les débuts de Magic, tu as vu que tu avais des Mox, des Sol Ring, des Mana Vault, des Ankh of Mishra, des Mishra Factory qui se transforment en artefacts. C'était vraiment fort parce que, dans le fond, tu burnais la face de ton adversaire et éventuellement, le chemin était libre pour ton Atog. Fait que là, tu sacrifiais tes Mox, tes Sol Ring, tes Mana Vault, tes Ankh of Mishra. Puis là, tu attaquais avec ton Atog qui était devenu un 10-10. C'est devenu ça un peu le concept de l'Atog. C'est que c'est la créature qui sacrifie des choses gratuitement pour gagner son Power Toughness. Fait que après ça, ce qu'on a vu, là, tu sais, Mark Rosewater était vraiment fan de Atog. Il dit que c'est un peu ça qui l'a rendu en amour avec Magic. Il faisait des decks d'Atog en 94. Fait que quand il est devenu membre là, de ceux qui créent des cartes Magic, il s'est mis dans chaque set à mettre des Atog. Fait que dans Mirage, t'avais le Fort Atog, que tu sacrifies une forêt pour donner +2/+2. Dans Vision, t'avais le Chronatog. Tu skips un tour pour y donner +3/+3. Là, tu vas me dire à quoi ça sert, ça. Ben, tu joues avec Stasis, que l'autre, il ne tape pas à son tour. C'est correct. Donne-y autant de tours que tu veux. Necratog, hein, tu enlèves une créature de ton graveyard pour lui donner +2/+2. Oratog, tu sacrifies un enchantement, ça va lui donner +2/+2. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, t'as fait le tour à un moment donné. Mm. T'sais, qu'est-ce qui reste à sacrifier? Fait que là, pour Odyssey, vu que Mark Rosewater était le lead designer, il s'est dit, je vais mettre des Atogs dans toutes les couleurs. Puis en fait, ce que je vais faire, c'est qu'il y a un cycle de couleurs. Les cartes dorées dans Odyssey, c'est les Atogs. Fait que là, puis la façon dont ça marche, c'est que chaque couleur est un effet différent du Atog. Comme le Fantatog, hein, il est bleu et blanc. Si tu sacrifies un enchantement, il y a +1/+1. Si tu discartes une carte, il y a +1/+1. Ça, c'est le discarter la carte, c'est le bleu. L'enchantement, c'est le blanc. Le Scaratog, hein, il est noir et rouge. Tu enlèves deux cartes de ton graveyard from the game. Ça, c'est le noir. Il gagne +1/+1. Tu sacrifies un artefact, c'est le rouge. +1/+1. Tomatog, hein, vert et blanc. Tu sacrifies un land, ça, c'est le vert. +1/+1. Tu sacrifies un enchantement, le blanc, +1/+1. Fait que ça, c'était comme... Ils se disaient, tu sais, c'est bien balancé, c'est pas trop fort.
Mais...
Les gens vont aimer ça. Le problème, c'est qu'ils ont pas vu, puis c'est drôle parce qu'il y a c'est la carte la plus discutée de cette époque-là. Si tu passes à la suivante, Tommy... il y avait le Atog-Atog.
Avec toute sa famille.
Le Atog-Atog, parce que, tu sais, c'est Mark Rosewater, il aime faire des jokes. Il a dit, je vais faire un Atog d'Atog. Mm. Parce que vu qu'il y a plein d'Atog dans mon set, c'est là un 5-5, les 5 couleurs, tu sacrifies un Atog, il gagne +X/+X étant le power de l'Atog.
Ça coûte cher d'assurance dentaire dans la famille
des Atog. Ça coûte cher d'assurance dentaire.
Moi, je sais pas, je sais que c'est une monarchie, il y a clairement une couronne, là, mais un moment donné, quand ton roi, pour devenir plus fort, littéralement, faut qu'il sacrifie sa...
Ben, c'est une métaphore sur la monarchie.
C'est l'histoire de la vie. Il aurait pu être Trumple.
Ouais. Mais un celui où ce qui s'est vraiment comme ils se sont pété la gueule avec, c'est le suivant, c'est la carte de la semaine. Mm-hmm. C'est la carte qui a défini si t'allais jouer à Magic en 2002-2003, c'était clair que t'allais rencontrer quelqu'un qui joue le
Allô, Psychatog. Est-ce que j'en ai tué du monde avec?
Ouais, un qu'on
Here's
a laissé un
Johnny.
Bout, un noir. Tu discartes une carte, il y a +1/+1 until end of turn. Tu enlèves deux cartes de ton graveyard, dans le fond, la carte que t'as discartée. T'en enlèves deux, il y a +1/+1. Pourquoi ça, c'était fort? Parce que quand tu la regardes tout seul, tu te dis, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Mais si tu la joues en conjointement, si tu passes à la suivante, le Psychatog, pourquoi c'était fort dans les decks à l'époque? On a ici, là, j'ai mis de Carlos Romano qui a gagné le World Championship de 2002. Dans le fond, là, c'est un deck de contrôle. Fait que t'es comme bourré de counterspell. T'attends que l'autre, il joue. T'es tranquillement, pas vite. Là, tu prends contrôle du board. Tu counterspell, c'est shit. Tu wipe, c'est shit. Et éventuellement, tu vas jouer, si tu passes à la suivante, t'as mis la carte Upheaval, qui était aussi dans Odyssey. Upheaval, c'était pour 6. Tu retournes toutes les permanents de tout le monde dans les mains de tout le monde. Fait que là, il n'y a plus rien pour bloquer.
Ouais.
Ton Psychatog, maintenant, tout ce que tu avais sur la table, incluant tes laines, sont dans tes mains. Tu attaques avec ton Psychatog. Là, tu, dans le fond, tu casses Psychatog.
À ton tour.
Ouais, à ton tour. Là, tu vas jouer un land. Il va jouer un truc. Tout ton Psychatog est là. Tu as des counterspells pour le garder. Et éventuellement, là, toute ta main, tu vas la discarter dans ton graveyard. Ouais. Tu vas attaquer avec son Psychatog. C'était vraiment, vraiment fort. C'était les gens voulaient que Psychatog soit banni. C'était un peu, là, tu sais, on a ça chaque année.
Il a tué Magic 2 années d'affilée.
Ça l'a tué Magic 2 années d'affilée. Mm-hmm. C'était vraiment... Je peux pas insister à quel point cette carte-là était jouée, ce combo-là. Là. Puis voir Psychatog dans des decks de contrôle, ça avait juste pas de sens. Puis en pré-moderne de nos jours, c'est là qu'on le voit. Il est plus trop dans Legacy, là. Mais, tu sais, c'est chiant. Il faut que tu gardes ta réponse pour péter son Psychatog. Mais même ça, tu sais, il grossit gratuitement. Fait qu'il peut, il répond si tu fais un Lightning Ball, c'est pas suffisant. C'est très, très difficile. C'est le Psychatog, la Tog ultime dans l'histoire. Toi, t'as-tu rencontré beaucoup de Psychatog à l'époque?
Pas, non.
Non?
Le Ultra Tog. Ouais.
Bring a Tog back. C'est Maga, make a Tog great again. On tient quelque chose. Ben écoute, c'est la fin de la carte de la semaine.
Toi, t'as un deck de Psychatog, Tommy?
Ouais, j'avais ça dans le temps. Là, ouais, tu t'étonnais, ouais, bleu noir avec des chevaliers qui faisaient jeter des cartes au hasard. Là, puis, j'avais du fun. Là. Y a rien qui bat le feeling de faire un hymne tout rack. C'est quand même une des cartes les plus chiantes ever. Là, c'est sûr et certain.
C'est la fin de la carte de la semaine. J'ai mis ici l'exemple. Là, tu vois, le World Championship de 2002. Psychatog, c'est la moitié du
top. Oui, les 5. Ah, ben ouais. Les 6 premiers, c'est tout des attaques.
Squirrel opposition.
C'est ce que je parlais au début de l'épisode.
Ben ouais, les seuls qui pouvaient porter, tenir tête au Psychatog, c'était les écureuils. On était dans cette période-là de Magic. Merci beaucoup pour la carte de la semaine. Merci à l'adversaire. Merci à Bond. Merci à Jason. Là, on va écouter un petit peu de beat, puis on retourne jaser au Odyssey. Bon, on est de retour. Il y avait un restant d'Atog ici, tu sais.
Ouais, c'est juste, je voulais mentionner que Atog original a été réimprimé dans Mirrodin 2 ans après. Puis, il faut faire comme une blague, ils avaient fait le Megatog, qui dans le fond, c'était un Atog, mais vu que c'est un Megatog, il donne +3/+3 au lieu de +2/+2.
Et Trample.
Et si vous voulez jouer, dans, comme par exemple dans Pioneer et Modern, il y a le Ravenous Intruder qui est, ça c'était dans Kaladesh, mais c'est exactement les mêmes stats qu'un Atog. C'est exactement la même carte là. Fait que tu peux jouer Atog en Pioneer. Si tu veux te bâtir un deck d'Atog, là, go.
C'est juste quoi, y a-tu quelqu'un dans le recherche et développement qui a dit Rosewater est pas là, on fait un Atog, on l'appelle Gremlin juste pour le faire chier.
Ben, les Gremlins, c'est les creature type dans Kaladesh.
Ouais, ça arrive, des fois, ils font.
C'est un set d'artefacts, c'est les inventeurs. Fait que ça fitait.
Des fois, ça arrive, ils font des reprints fonctionnels.
Ben oui. Faisait longtemps, je l'avais pas entendu.
Saute-nous ça de deux.
Ah ouais, hein? Ben tiens, il y a le rond.
Écoute, on va aller. L'autre aspect marketing, là, je vais parler vraiment de lore. On va se concentrer sur le lore. C'est que. Il y avait comme une obsession à l'époque Magic, ils pensaient que la popularité de leur jeu, c'était genre, mettons, toi, tu joues à Magic, puis quand tu joues à Magic, éventuellement, tu vas aller au Pro Tour. Hein?
Sure.
Tu veux pas jouer à Commander, qui n'était pas encore connu à l'époque. Ton ambition, c'est de devenir le
Pro Tour. Mon seul objectif, c'est d'aller au Pro Tour.
Ouais, tu sais, tu joues pour devenir bon, parce qu'éventuellement, tu vas aller au Pro Tour. Fait que,
non, t'as deux objectifs dans la vie. Moi, j'essaie pas de collectionner 150 Pokémon à l'époque. Moi, je vais aller au Pro Tour.
Je vais aller au Pro Tour.
Je vais donner le champion de tout.
Fait que le lore de Odyssey, puis de pas mal de cette époque-là, c'est que c'est lié beaucoup au marketing de ce qu'ils voulaient faire. C'était que, dans le fond... On veut que les gens prennent exemple sur nos pro players Et c'est ce qu'on va représenter dans le jeu. Fait que la plupart des couleurs dans Odyssey, les combats, ces choses-là, c'est des combats d'arène. Dans le fond, c'est des duels de Magic.
Mais là, c'est presque Pokémon-esque, en effet.
Ah non, c'est mais, très, ça, mais c'est à l'époque, c'est à peu près à l'époque, dans le même temps. Pokémon, là, c'est dans le même temps. Ah, non, en fait, c'est quand Odyssey est sorti, Wizard of the Coast venait de vendre Pokémon plus cher à Nintendo.
Ben, tu l'as montré la semaine passée qu'il y avait des troubles de liquidité, puis à cause de ces troubles de liquidité-là. Mais moi, ce que j'aime dire, c'est si vous êtes des fans de shonen, de dessins animés japonais, il y a toujours, toujours, toujours après une couple de saisons le Tournament Act.
Sure.
C'est là où c'est qu'on est rendu.
C'est vrai.
Fait que t'as toute une série de lands, des lands qui ont threshold, hein, c'est les threshold lands, qui représentent, dans le fond, chacune des factions là, que je vous parle, ils ont toutes leur arène, où c'que, c'est là qu'on règle les problèmes. Puis dans le fond, le Creative Team, ce qu'ils disaient, c'est que dans le monde de Otaria, tout le monde a comme plus ou moins accès à la magie de la façon dont je vous ai présenté, là, comme les gens de la cabale, c'est des Demon Chess Summoner. Et c'est un peu comme le Far West. C'est que là, t'arrives dans la ville, puis là, si t'as un problème avec quelqu'un, il va te déclarer en duel, mais tu fais pas le duel dans la rue, tu vas dans l'arène. Fait que là, tu sais, tous les noms, là, tu vois le Stadium des Nomades, le Coliseum des Céphalides, le Ring, hein, comme un ring de lutte, des Barbares, le Jardin des Centaures, je trouve ça comme c'est un jardin, leur arène, et surtout le Cabal Pit. Où, dans le fond, dans la ville de la Cabale, ils ont un gros arène au milieu. Et c'est surtout dans le fond, c'est là que les gens se font connaître. En faisant des duels dans l'arène devant des spectateurs, c'est comme ça qu'ils deviennent légendaires. Dans le fond, c'est une espèce de métaphore appliquée dans l'ore du proto-tour.
Yu-Gi-Oh!
Fait que quand tu joues à Magic à l'époque de Odyssey, c'est comme si tu t'imagines, dans le fond, pendant que tu fais ta game de Magic, c'est qu'on est en train de se battre dans l'arène. On passe à la suivante.
Un beau petit imaginaire.
Ouais, j'ai pas.
Comment? T'es pas ça, sûr, Tommy?
Le Cabal Pit, bon, c'était ça. Quand même pas pire parce que ça fait un moins deux pas cher.
Ouais, non, c'est pas des. Je dis pas que c'est des lands.
Tu peux réagir en instant aussi pas mal avec toute la gang.
Moi, Barbarian Ring, je le mets dans mes decks de burn parce que c'est un land que tu transformes facilement en deux de dommages. Si tu passes à la suivante, fait que vous allez voir, là, ça va beaucoup tourner autour des duels. Fait que tu vois, là, comme Malovin Awakening, où ce qu'on voit encore notre ami, le patriarche de la cabale, qui a l'air à s'en mêler d'un duel. Ça, c'est un enchantement, tu payes 3, tu sacrifies une créature pour ramener une autre créature du graveyard dans ta main. Mm. Tu vois, ça dit dans le flavor text, lis-nous ça, Tommy.
The most popular pit fighters are brought back for encore performances. Les combattants les plus populaires sont ramenés pour des rappels, hein, des performances de rappel.
Puis on voit le dessin, ça se passe dans une arène. Et tu vois, Battle Strain, hein, on voit deux barbares qui se battent. Ça, c'est une carte rouge. Là. Ça, en fait, c'est le même. C'est l'enchantement dans le rouge qui, à chaque fois qu'une créature qui bloque Battle Strain, fait un dégât au contrôleur. On voit deux barbares là, qui se tapent sa gueule dans une arène.
Party!
Tu vois, lis-nous le flavor text, Tommy?
The pits swallow the weak as predators swallow prey. Hein? Le pit avale les faiblards, tout comme les prédateurs gobent leur proie.
Fait qu'on on va être beaucoup dans le combat de c'est des games de hockey. Hein? C'est yes, c'est comme le pro tour, c'est des combats d'arène. Let's go, on se lance des spells. Passe à la suivante.
Du chess bomb.
Le plus populaire de tous les fighters de ces stadiums, puis d'arena, puis de trucs comme ça, c'est aussi le personnage principal de l'histoire de Odyssey, c'est Kamal.
Ah.
Sa première carte, c'est Kamal Pit Fighter. J'entends déjà nos nerds qui disent: ben non, mais Kamal, je pensais que c'était un druide. Ouais, ça, c'est dans plusieurs sets. Pour l'instant, c'est un barbare.
Nos nombreux druides, nos nombreux geeks.
Ouais, ça, dans le fond,
c'est le début de son histoire.
Ouais, le début de son histoire, cool, Kamal, c'est un barbare des montagnes de Pardik.
Qui a autant d'HP qu'un écureuil.
C'est le ball lining du set. Tu vois, il y a Ace, c'est un 6-1. Sauf que c'est pour 6. Puis tu peux le taper pour faire un lightning bolt. Toi, lis-nous le flavor text, ami.
I didn't come to play, I came to win. Grand, je ne suis pas venu jouer, je suis venu gagner.
Ouais. Fait que Kamal, ce qui est intéressant de lui, il n'y a pas grand-chose d'intéressant là, c'est vraiment c'est le gros barbare, c'est Conan qui s'en vient d'une game d'hockey.
Ah.
C'est fait que là, Kamal, il se promène, c'est ça son gang-pain, c'est qu'il se promène à travers le continent d'Otaria, il fait les différents colisées, arènes, pis ça, pis péter du monde. C'est un pit fighter.
Il ramasse des badges.
C'est comme ça qu'il ramasse.
Il essaie pas, il espère pas croiser d'écureuils aussi.
son épée va être importante, mais à l'époque, il n'y avait pas encore la mécanique d'équipement. Ça va venir dans Mirrodin plus tard. Fait qu'ils n'ont pas fait d'artefact à propos de son épée. Non. Mais vous allez voir que son épée est sur plusieurs cartes, puis elle va prendre une importance croissante à mesure qu'on avance. On passe à la suivante. Fait que là, Kamal va rencontrer... celle-là est tombée là par accident. On passe à la suivante. Fait qu'il y a plusieurs cartes qu'il y a Kamal dessus qui se bat dans une arène. Et éventuellement, ce que le...
On peut déjà parler de ça, le Mirari.
Oui, le Mirari, c'est... rétroactivement, ils vont la plugger avec l'histoire de Urza, mais quand ça sort dans Odyssey, ce n'est pas le cas. C'est que c'est Mirari, c'est le MacGuffin de Odyssey. C'est aussi le logo du set.
Mm-hmm.
Le logo qui a... C'est le Mirari. C'est le miroir des désirs. C'est la sphère qui fait ce que tu veux. Le Mirari, 5 colorless, légendaire artefact. Tu peux... dans le fond, c'est que à chaque fois que tu joues un instant ou un sorcery, tu peux payer 3 colorless pour faire un fork dessus. Hein, tu le copies. Le Mirari dans l'histoire de Odyssey, c'est que les différents... combattant dans les pits, le prix ultime... Hein?
Attends, c'est la Coupe Stanley.
La Coupe Stanley...
Tabarnak.
C'est que celui qui gagne le plus important des combats, qui est font celui dans le pit de la cabale devant le patriarche, il remporte le Mirari. Et là, c'est expliqué plus dans le roman, c'est que le patriarche Sagamik, c'est que... avec le Mirari, il peut attirer à lui les plus forts personnages de Otaria et en prendre le contrôle ou bargainer avec ou whatever. Donc, le Mirari va être important. On va le voir sur plusieurs cartes. Et dans le fond, la guerre entre les couleurs... Là, tu nous demandais tantôt comment les céphalides peuvent lever le niveau de la mer.
Oui. Ah, ouais.
Fait que c'est
il y a un MacGuffin super facile.
Il y a le MacGuffin pour le faire. C'est que, dans le fond, toutes les couleurs vont se battre à travers les 3 prochains sets, là, vont se battre pour le contrôle du Mirari dans des combats d'arène. Tu penses à la suivante, Tommy?
Puis j'aime que le flavor text, c'est comme Batman. Là.
Ouais. Les nous-là pour le fun.
Ça t'offre ce que tu veux, pas ce que tu dis, pas ce que tu as besoin.
Ouais. T'as toute une série de cartes où ce que on voit, il appelle ça c'est le cycle des désirs. C'est un aura, tu vois, comme le désir de Kamal, hein? C'est un aura qui donne first strike et plus 3 si t'as threshold.
C'est niaiseux, j'allais dire pourquoi il aurait dû lui donner first strike, puis là,
ben oui, c'est ça.
Ouais. Ma réponse.
Fait comment que Kamal peut pas se faire tuer par un écureuil? Ben faut qu'il pogne le Mirari. Parce que s'il pogne le Mirari, il va avoir first strike.
Il va pas bûcher l'écureuil avant qu'il se fasse bûcher par l'écureuil.
Fait qu'on voit, on voit Kamal qui tient le Mirari dans sa main et qui se voit pas être en train de mourir par des écureuils.
Fait que, la joke est bonne.
Ouais, vous allez voir là, la sphère, c'est pas pour rien que c'est le symbole du set, c'est vraiment la locomotive de l'histoire. C'est qu'on se bat pour le MacGuffin. C'est super niaiseux en rétrospective, mais bon, on se met à l'époque.
Bah non, c'est dans un monde de magie, qu'il y a une source de magie toute puissante, ça fit
avec.
C'est déjà pas mal moins MacGuffin niaiseux que l'autre tata qui a décidé de sortir du livre pour nous écrire la fin de l'arc de la galerie, frère.
Tommy n'a toujours pas dit.
Je ne le digérerai jamais.
Non, mais comme tu vas-y. Tu sais, il y a une raison pour laquelle que ce type d'histoire-là, c'est le nom MacGuffin existe. Oui, c'est hyper commun, mais c'est pas parce que c'est commun que ça fonctionne pas. Il y a moyen de bien écrire des histoires avec des MacGuffin.
Sauf la suivante, on va voir les autres personnages qui vont se mêler de... Tu vois, le patriarche, lui aussi, il a ses désirs par rapport à la
Bill
la
Murray. Qu'est-ce que c'est, ça?
Bill Murray avec la...
Ouais, il y a genre Bill, y a une face à Bill Murray. Hein,
qu'est-ce que c'est ça?
C'est bizarre. Lui, dans le fond, il veut dominer le monde. Hein, c'est ça, le son avancement. Fait que c'est pour ça qu'il convoite le Mirari. On passe à la suivante.
Le monde, hein, c'est...
Ouais, le combattant d'arène des vers, hein, de la forêt de Croza, c'est Seton. Le protecteur de Croza, hein? 3 verts, un 2-2 pour un druide centaure. Et tu peux taper un druide qui n'est pas tapé pour faire un mana vert. Fait que c'est un peu la même affaire là, que le Titania Priest dans Urza Saga. Fait que Seton, c'est l'ambassadeur de Croza. Puis là, il se met à voir là, que les autres ils font des genres de fight dans des pits. Fait que il se dit, ben nous aussi, on peut faire ça pour avancer nos intérêts. Fait que c'est le centaure qui se bat dans les arènes. Il va devenir le partner de Kamal. Ils vont devenir comme amis et se battre ensemble dans le pit. Tu vois, il dit « Survival of the fittest is not only the law of the pit, it is the law of nature. » Dans le fond, la survie du plus fort, c'est pas juste la loi dans le trou, dans le pit où on se bat. C'est aussi la loi de la nature. C'est pour ça que je me bats. Hein? Je me bats pour le
toutes tes phrases de 8 heures.
Sortira ton autobiographie.
Je regarde qu'il y a le Conan Handshake qui s'en vient.
Écoute, on va le voir. Passe à la suivante. Hein? Bien sûr, hein? le désir de Seton. On l'a ici. Je trouve que le dessin est super laid. Il tient le Mirari dans sa main. Hein? C'est ça qui lui fait qu'il est capable
son,
de.
Son désir le plus fort, c'est lui-même.
C'est d'avoir un six-pack.
Creatureable
c'est d'avoir les deux bras derrière.
C'est le lure, hein? C'est ça que ça fait la carte. C'est que ça fait en sorte que quand il attaque, toutes les autres, toutes les créatures de l'autre doivent le bloquer.
Et voilà.
C'est très, très, très nombril-centré. On passe à la suivante. Dans le blanc, on a. Non, dans le bleu, hein, on voit, tu sais, je parlais tantôt, le Aboshan, hein, l'empereur des céphalides, qui veut monter le niveau de la mer pour engloutir Otaria. Ça fait en sorte que les créatures ont Shroud. En étant toutes sous l'océan, c'est nous les boss, ils ne pourront plus nous atteindre, on ne va pas faire ce qu'on veut.
C'est cute, Ice Flying.
Ice Flying. On passe à la suivante. Dans le blanc, c'est le lieutenant Kirtar.
C'est ce qui est solide, lui.
Ça, c'est 2-2 flying. Tu peux le sacrifier pour enlever une créature qui attaque ou qui bloque. Yeah. Dans le fond, ça, c'est le chef des Haven. Hein. Je vous parlais la semaine passée, les Haven, qui est le peuple des oiseaux. Kirtar, lui, ça doit être vraiment facile, faire une arène, une à la fois. Il va être un antagoniste parce qu'il est une créature de couleur blanche. Il est à la fois un antagoniste de Kamal, qui est le barbare rouge, et du patriarche, qui est le chef de la Kamal. Fait que c'est un peu ça son storyline, il n'y a pas grand chose, mais il désire hein, lui aussi le Mirari. Fait qu'on a le Kirtar Desire, si tu passes à la slide suivante.
Lui avec, il va être comme
j'aime les bras d'un air. Vraiment le dessin de Pete Venter, là, qu'on voit qu'il est vraiment comme hey, enfin je l'ai, tu sais, puis il est bras d'un air dans la sphère.
Oui!
On passe à la suivante.
C'est fun parce que c'est comme une espèce de callback à All Will Be One. Avec les désirs de chacun des Phyrexiens.
Sérieux, si je pourrais donner le MacGuffin à toute la gang, définitivement pas celui-là qui veut conquérir le monde ou l'autre qui veut flooder tout le monde.
Les deux qui ont le gars
qui veut avoir First Strike, vas-y, gardez l'artefact.
Chill.
Le genre, faites-moi pas tuer par les 1. I'm okay d'avenir. With that.
Passe à la suivante, Tommy, s'il vous plaît. Fais juste skipper celle-là. Non, excuse, vas-y encore. Fait que c'est ça, c'est le Mirari, c'est le MacGuffin de l'histoire. J'avais dit autre chose après? Je me rappelle plus mon. J'ai pas mal fini le storyline. On va voir la semaine prochaine avec Torment là, comment ça continue l'histoire du Mirari. Je veux juste parler d'une dernière carte, Shadow Mage Infiltrator. Dans le fond, c'est à l'époque, puis c'est encore le même de nos jours. Tu sais, quand on avait reçu. Comment ça s'appelle? Le champion du monde de cette année.
Jean-Emmanuel Depra.
Jean-Emmanuel Depra. Maintenant, lui, il va avoir le droit de designer une carte de Magic. Shadow Mage Infiltrator, qui est dans Odyssey. Ça, c'est considéré comme un des plus grands joueurs de Magic ever. C'est John Finkel. Mmh.
C'est lui qu'on voit, là.
C'est lui, c'est sa face qui est sur la carte. Fait que dans le fond, lui, ce qu'il aimait, c'était la carte Ophidienne dans Weatherlight et aussi la carte Curiosity. Fait que Shadow Mage Infiltrator, c'est un peu tu vois, c'est il peut seulement être bloqué par des artefacts créatures ou des créatures noires.
On disait Fear dans notre point. Fear.
Et à chaque fois qu'il touche l'adversaire, ben tu piges une carte. Fait que c'est un peu ça
la première fois qu'il faisait ça.
Non, ils avaient commencé en 97. Le premier qu'il y a eu, c'était voyons comment il s'appelait, c'était la mécanique Loot. Okay. Vient de Mike Long qui a amené ça. Il a dit ça serait fun de pouvoir piger des cartes et discarter des cartes.
Non, mais je parle d'avoir la face d'un gagnant.
Non, il y avait tout le temps, ils ont tout le temps eu ça. Fait que toutes les cartes des champions du monde de chaque année ont sa carte. C'est depuis 97 que c'est comme ça. Et tu avais aussi dans un cycle dans Odyssey qui était. On l'avait vu la semaine passée avec la carte que tu flippais pour gagner la game. Ouais. Battle of Wits, c'est un peu le pendant dans le bleu. Tu voulais dire de quoi, Eman? Je te
checker tes notes, non?
Le Battle of Wits, c'est le pendant dans le bleu. C'est un enchantement que si tu as 200 cartes dans ta librairie, tu as gagné la game. Ça coûte 5.
J'ai vu du monde l'essayer, ça.
T'as vu du monde l'essayer? T'as-tu
Il y a toujours quelqu'un qui
réussit.
Non.
Non? Toi, Tommy?
Non.
C'est quoi le bout qui est dur de ne pas le réussir?
C'est
d'avoir la carte. Là.
Ben oui.
Premièrement, s'il coûte 5, puis c'est au début du upkeep de ton adversaire qui gagnerait. Fait que t'as le temps d'intervenir.
Puis plus tu mets de cartes dans ton deck, moins t'as de chances de pogner la carte qui te fait gagner.
La carte ou une carte
pognée. Il faut que tu fasses une bonne balance de cartes défensives, puis de fetch, de tutor pour être capable d'aller la chercher. Puis si tu passes le. Tu sais, mettons, t'essaies d'avoir 210. 224, là, pas ouais, nécessairement hein, beaucoup ouais, plus. Ouais. Fait que là, si la game va vite parce que tu fetches, puis tu piges, puis t'es pas chanceux, ouais. Ben là, faut comme que tu reset ouais, en essayant vrai. Un spell. C'est
si tu mets tellement d'efforts de cartes à essayer de faire ton, ouais. Ton deck de 200 plus cartes.
Mais avec le monde fonctionner, aujourd'hui, tu peux aller chercher des cartes dans ton
sideboard. Je dirais que ça va tout le temps être essayé, j'ai l'impression. Là. Moi, la fois que j'ai passé le plus proche de me le faire, le gars, il avait une gimmick pour le caster en flash, son enchantement. Ah. Fait qu'il pouvait le faire juste avant son tour, quand il l'avait dans sa main. Puis,
il y avait combien de cartes dans son deck, tu sais?
Il était à 210.
210.
Ouais. Okay. Fait qu'il pigeait sans mettre départ, puis il y avait plein ouais. De Feldon's Cane, puis des affaires pour.
C'est comme un puzzle. Que
ouais, c'est un build around. Ouais.
Ouais. Je vais juste répéter la même chose que j'ai dit parce qu'ils l'ont imprimé pour Secret Lure Princess Bride.
Oui, c'est vrai, t'as raison.
Je fais juste dire, moi, j'adore jouer cette carte-là en Commander parce que j'ai jamais gagné une game avec cette carte-là en Commander. Mais juste la face des adversaires.
Quand t'es à cast.
Quand t'es à cast, te mettre en jeu, puis là, voir le plaisir de voir les trois autres personnes lire la carte, puis me regarder, puis voir comme.
C'est 200 cartes.
Comment, pourquoi? Juste ça, c'est une victoire morale à chaque fois. C'est le meilleur spell qui coûte 5 à jouer en Commander.
Y a-tu un deuxième deck de cacher dans son sac? Ouais,
c'est la fin pour... on vient de terminer Odyssey. On a vraiment fait le tour. La semaine prochaine, on va se plonger dans le set suivant sorti à l'hiver qui est Torment. Qui est le seul set dans l'histoire de Magic où ils ont délibérément mis plus de cartes noires que les autres couleurs.
Moi,
Torment, c'est
ça,
le set noir.
Ouais.
C'est basé autour de la Cabale et leur Demon Chess Summoning qu'on a parlé aujourd'hui. C'est, dans le fond, c'est les couleurs ennemies du noir qui sont le blanc et le vert ont vraiment moins de cartes dans Torment.
Mange la merde.
Parce que c'est les ennemis du noir qui se font corrompre. Et dans Judgment, qu'on va parler dans deux semaines, là, ils ont fait l'inverse. C'est qu'ils ont réduit le noir et ils ont boosté le vert et le blanc. Mais Torment, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. C'est là qu'il y a le mécanique Madness. Donc, on s'en parle la semaine prochaine.
Hey, merci beaucoup Jason pour ça, ce beau recap du bon vieux temps de Magic. Moi j'avais entendu dire que bon, je vais en parler la semaine prochaine. Merci Andy d'être passé nous voir.
C'est un plaisir, on se revoit la semaine prochaine. Peut-être que je vais désinstaller Harry, non, c'est
jamais. Peut-être, on checkera ça. Merci Emmanuel.
Rock'n'roll, mais là je suis un peu déçu, là. On a fait le tour de Odyssey puis Ulysse n'est pas encore rendu chez lui.
C'est vrai,
hein, pareil. C'est...
Non, il est occupé à laver les étables.
Ben voilà. Jonathan, la trame sonore en background, on peut rappeler.
Dire ça, c'est le nom du band, c'est The World We Live In, le nom de l'album Star Broken Souls du bon Chillwave.
Et voilà, merci beaucoup et Lompré, notre mascotte.
Ben ouais, à la prochaine les magiciens, les magiciennes. Oubliez pas de faire des mulligans quand c'est pertinent.
Oh.
C'est très important.
C'est vrai, c'est une habitude à prendre. Une habitude
excellent
à prendre, PSC. Mesdames et messieurs.
Ça vaut la peine à faire.
Là-dessus, ben, on va remercier Martin Godette qui s'occupe du montage. Merci à Bond pour les beats, à l'adversaire pour leur support moral. À vous, chère communauté, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Facebook. Contactez-moi si vous voulez venir jouer à Magic, pas anal. On est legacy tranquille, on va dire. Puis tu sais, tu peux acheter un deck de dépanneur puis venir nous torcher.
Ça
c'est déjà vu. Voilà, merci beaucoup. On se tient au courant là-dessus. Mon nom c'est Tommy Godette et je vous souhaite à tous et à toutes. Ah, c'est vrai, on est disponible sur Spotify.
Entre autres,
un peu partout. Checkez ça, là. D'être le moins manascrou possible. C'est...